Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Patrimon Arts. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver après un certain laps de temps pour discuter de mon sujet de mémoire. Alors, comment est-ce que je suis arrivée à écrire un mémoire? Tout simplement, à partir de l'année dernière, donc la rentrée 2022, je suis arrivée à l'université de Paris 1, donc Panthéon-Sorbonne. Et dans le cadre de mon master qui s'appelle le master Patrimoine et Musées, je dois donc faire un mémoire, tout simplement. Et j'ai donc décidé de travailler sur un château, sans grande surprise, puisque c'est quand même ma passion principale depuis mon enfance, on va dire. Et j'ai donc décidé de travailler sur le château d'Amboise, que vous connaissez très certainement, qui se trouve donc en Indre-et-Loire. C'est un château que j'avais déjà visité, que je connaissais. Et pour moi, c'était donc assez aisé, on va dire, de travailler sur un château qui en tout cas se trouve dans le Val-de-Loire. C'était véritablement la zone géographique sur laquelle je voulais travailler. Et bien évidemment, il faut trouver un angle d'approche qui n'a normalement pas été étudié pour écrire un sujet de mémoire. Le but est quand même d'apporter un petit peu de nouveauté dans le monde de la recherche. Et donc mon angle d'approche pour ce mémoire a été donc celui de la restauration du château d'Amboise, qui se déroule pour ma part entre 1870 et 1925. C'est vrai que maintenant on pourrait se demander pourquoi est-ce que j'ai décidé de travailler sur un sujet portant sur une restauration du patrimoine bâti. Tout simplement parce que, vous le savez sûrement pour certains, je souhaite devenir conservatrice des monuments historiques. Et donc, pour moi, il fallait vraiment que mon mémoire soit en lien avec mes ambitions, on va dire. C'est alors pour cette raison que j'ai décidé de travailler sur un sujet de restauration, puisque quand on est conservateur des monuments historiques, la restauration est quand même une large part de notre travail. Donc je voulais vraiment que ce soit en lien avec d'ailleurs ce domaine des monuments historiques, je vous en parlerai un petit peu plus loin dans le podcast. Donc c'est pour ça, en fait, tout simplement que j'ai voulu lier le mémoire de recherche avec mes aspirations futures, puisque je fais ce mémoire de recherche pas pour devenir chercheuse, normalement, mais tout simplement parce que c'était dans le parcours, on va dire, que j'ai décidé de suivre pour mener jusqu'à conservatrice des monuments historiques ou un autre métier. Ça, on verra en suivant des opportunités. Mais voilà un petit peu pour vous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi j'ai choisi une restauration et pourquoi le château d'Amboise. Là, la réponse est plus simple, tout simplement parce que j'adore cette région et que je connaissais le château, mais ça pouvait un petit peu porter sur, j'ai envie de dire, un petit peu n'importe quel château du Val-de-Loire ou ailleurs. Je n'avais pas spécifiquement de préférence à ce propos. Je voulais juste traiter du bâti et d'une restauration, et c'est donc ce que j'ai pu faire. Alors pour ceux qui doivent élaborer un mémoire prochainement dans les milieux d'histoire de l'art ou l'histoire, je pense qu'il faut quand même commencer à vraiment élaborer un sujet et en bien dessiner les contours, je dirais, pendant les vacances d'été qui précèdent cette rentrée dans laquelle vous allez effectuer un mémoire. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, hein, c'est durant l'été, entre juin et août, que j'ai dessiné un petit peu les contours de ce sujet-là. Et en septembre, théoriquement, vous êtes censé avoir déjà votre sujet et commencer à travailler dessus. Personnellement, c'est ce que j'ai fait, mais c'est pas non plus le plus commun, c'est pas une obligation. Il y en a qui commencent à vraiment dessiner les contours de leur sujet que fin septembre, début octobre. Ça, c'est vous qui gérez votre temps comme il le faut. D'ailleurs, j'ai pas précisé que mon mémoire se déroulait uniquement en une année, puisque l'année qui arrive, je ne vais pas continuer la recherche. Donc, c'est quand même un mémoire qui finalement se déroule en peu de temps, de septembre à juin. Donc c'est quand même assez rapide. Personnellement, pour ce qui est de la gestion de mon temps, j'avoue l'avoir plutôt bien géré. Très rapidement, je me suis donc mis dans ce parcours de recherche, je me suis plongée dans mon sujet. Dès le début, bien évidemment, je vous conseille de lire des ouvrages un petit peu généraux sur votre sujet. Donc pour mon cas, c'était donc des livres sur le château d'Amboise assez généraux, puisqu'il faut bien évidemment maîtriser le contexte dans lequel se déroule tel événement. Moi, pour mon cas, c'était donc la restauration du château, donc il fallait que je maîtrise la restauration du château, donc au 19e siècle, début 20e. Mais il fallait également que je maîtrise la construction initiale du château, qui se déroule donc au 15e siècle. Donc, c'était ici en fait qu'était tout l'enjeu de mon sujet, c'est qu'il fallait pas que je maîtrise un contexte, mais deux contextes, qui sont quand même assez différents. Heureusement, je connaissais déjà assez, on va dire, le contexte de la Renaissance dans le Val-de-Loire et au château d'Amboise, donc j'avais quand même un petit peu plus d'avance, on va dire, pour ce contexte-ci, mais pour le contexte de la restauration, je maîtrisais les grandes idées. Et bien évidemment, je connaissais les grandes restaurations de Viollet-le-Duc, que vous connaissez peut-être, donc pour Notre-Dame de Paris, la Sainte-Chapelle, Pierrefonds, pour ce genre d'exemple-ci. Mais sinon, pour le Val-de-Loire, je maîtrisais peu les restaurations pour cette aire géographique, tout simplement parce qu'on en parle peu et que c'est pas encore un sujet qui a été très très développé pour ce qui est de la région du Val-de-Loire, je trouve. Donc c'est pour toutes ces raisons aussi que j'avais décidé de faire ce sujet. Pour ce qui est du contexte, je vais essayer de vous résumer un petit peu brièvement dans quel milieu j'ai voulu placer le château d'Amboise pour mon mémoire de recherche. Alors, premièrement, j'ai souhaité, donc en élaborant mon mémoire, et c'est ce qu'on retrouve dans ma première partie, mon mémoire est constitué de trois parties, je précise à titre indicatif, que dans la première partie, j'ai souhaité, on va dire, axer le château sur l'aspect monument historique. Comme je vous l'ai dit, c'était vraiment important pour moi de lier les monuments historiques à ce château. Et ça n'a pas été très compliqué, puisqu'en fait, il faut savoir que les premières listes de classement des monuments historiques, la toute première, elle est en 1840. Cette première liste a mené à classer de très très nombreux édifices que l'on connaît tous sur cette première liste. Il y a Chenonceau par exemple, pour ce qui est du Val-de-Loire, il y a Chambord et il y a Amboise. Et donc Amboise est donc classée dès le début, dès la première liste. Et en fait, c'est à partir de cette borne chronologique que je débute un petit peu mon mémoire, donc cette borne de 1840, donc d'un classement des monuments historiques au début de la Restauration, dès Victor Ulbrich Robert en 1870. Alors là, vous pouvez vous demander qui est ce Victor Ulbrich Robert. Eh bien, si j'aborde une restauration, il faut quand même pas oublier les architectes des monuments historiques qui œuvrent pour cette restauration. Et en l'occurrence, ici, l'architecte sur lequel j'ai travaillé, c'est donc Victor Ulbrich Robert, architecte des monuments historiques. Et vous allez apprendre dans la suite de mon propos qu'il y a également le fils qui s'appelle Gabriel, cette fois-ci Ulbrich Robert. Je suis désolée, le nom est un petit peu long. Et ce sont donc ces deux architectes des monuments historiques qui travaillent sur le château d'Amboise entre 1870 et 1925, qui est quand même une période assez longue. Et ce sont donc, voilà, sur ces deux architectes des monuments historiques que j'ai travaillé. Et dans le déroulé de mon mémoire, je commence donc par expliquer la restauration par le père, en le replaçant donc dans ce contexte des monuments historiques. J'ai vraiment abordé une première sous-partie qui parle de ce contexte-ci, qui apporte une réflexion assez large sur les restaurations des monuments historiques à cette époque, parce que vous le saviez peut-être, mais elles sont quand même assez nombreuses au 19e. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui, ou presque, a été restauré à cette période-ci. Donc c'est vraiment un grand moment de restauration, et le château d'Amboise se trouve dans ce contexte-là, avec ces deux architectes des monuments historiques. J'aborde également, dans ma première partie, tout l'aspect, on va dire, l'effacement, aujourd'hui, de Victor Ulbrich Robert. Ce sont des architectes qu'on ne connaît pas, en fait. Il y a beaucoup d'architectes des monuments historiques qu'on ne connaît pas. Tout est resté assez focalisé sur quelques noms, donc voilà, comme on peut dire, bien sûr, Eugène Viollet-le-Duc, qui est vraiment la figure de proue en ce qui concerne ces restaurations. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a plein d'autres architectes des monuments historiques. Plein, j'abuse peut-être un petit peu, mais il y en a quelques-uns. Il y a Félix Duban, qu'on connaît un petit peu, pour le Val-de-Loire et pour la Sainte-Chapelle de Paris. Donc il y a quand même de nombreux acteurs, certains qu'on a oubliés tout simplement avec le temps. Aujourd'hui, on n'a que quelques noms en tête, mais à l'époque, il y en avait bien plus. Donc il y avait notamment ces architectes-ci qui travaillent pour le château d'Amboise. Et donc par la suite, j'ai donc travaillé sur le début du chantier, donc par le père, qui commence en 1870. Et mon mémoire dessine également les diverses phases de restauration entre père et fils. Ma deuxième partie porte en fait là-dessus. Je dresse un espèce de panorama des travaux qui ont été effectués par le père et le fils, des travaux qui s'entremêlent chacun entre eux. Des fois, ils travaillent ensemble, ils ont quand même un lien de parenté. Des fois, ils travaillent ensemble, et des fois, non. C'est en fait un petit peu ça que j'ai voulu montrer dans mon mémoire, délimiter un petit peu le travail de chacun, puisque c'était assez flou. Au début, quand j'ai commencé à faire mes premières recherches, ça a été très 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 flou de comprendre qui avait travaillé sur quoi. D'ailleurs, quand j'ai esquissé mon sujet de recherche, comme je vous l'ai expliqué au début, je pensais travailler sur un seul architecte des monuments historiques et pas sur deux. C'est lors de ma première visite en archives que j'ai découvert sur des plans qu'il y avait également un Gabriel Rubrich-Robert. Donc j'ai vraiment découvert ça sur le terrain, si on peut dire, sur le terrain des archives du moins. Donc voilà, il faut aussi avoir ça à l'esprit quand on fait des recherches, il y a vraiment des éléments qui peuvent arriver pour lesquels on n'était pas préparé, on va dire psychologiquement, mais il faut quand même prendre du recul et on arrive normalement à peu près à s'en sortir. Moi ça m'a pas posé problème, au contraire ça a été assez intéressant puisque ça m'a permis d'avoir de nouvelles réflexions, de délimiter un petit peu le travail de chacun, même si... c'est un point qui m'a été un petit peu reproché lors de ma soutenance, d'avoir peut-être trop voulu délimiter le travail entre le père et le fils, et peut-être que c'était pas nécessaire en fait. Peut-être que c'était pas utile de délimiter tant que ça le travail du père et du fils. Personnellement, moi j'ai trouvé que ça avait du sens, mais ça c'est une interprétation de chacun. Et donc, dans cette partie-là qui m'a été un petit peu reprochée, j'ai donc, par exemple, montré que le fils travaillait majoritairement à l'intérieur du château. Donc c'est lui qui a restauré de nombreux éléments intérieurs du château d'Amboise. Je pense par exemple à des décors de portes en bois, des décors, des ornements sculptés dans le bois. À l'intérieur du château, le fils a donc travaillé sur du bois, mais il a également travaillé la pierre. Il y a une pièce dans le château d'Amboise qui est constituée d'une cheminée en pierre de tuffeau. C'est une pièce qui est accolée à la salle des états en fait du château d'Amboise, est accolée d'une petite salle. Et dans cette salle, il y a une cheminée qui a été restaurée, selon les plans que j'ai trouvés, par le fils. Donc, il a par exemple travaillé sur ces deux éléments. Je ne vais pas tous vous les citer parce que sinon le podcast durerait bien trop longtemps. Mais il a donc par exemple travaillé là-dessus. Puis, pour vous donner un exemple, la chapelle a été restaurée, normalement, selon mes sources, d'après ce que j'ai trouvé, par le père. La chapelle Saint-Hubert, que vous connaissez peut-être, d'autant plus aujourd'hui, puisque actuellement, une restauration est en cours sur cette chapelle, et justement, je vais continuer un petit peu là-dessus, puisque c'est vraiment un moment qui a été très très intéressant à propos de cette chapelle, justement. Ça a été très intéressant de faire en fait une étude de cas sur cette chapelle Saint-Hubert, restaurée normalement par le père, mais certainement avec l'aide du fils. Il ne faut pas oublier que ce qu'un architecte père fait, le fils peut toujours l'aider, que ce soit en termes de plans, que ce soit en termes d'idées, ou alors sur place. Je pense que le fils avait vraiment un rôle de on va dire de surveillant des travaux. Il était très certainement sur place pour veiller au bon déroulement des travaux, alors que son père, lui, est resté peut-être un petit peu plus sur Paris, où il avait son bureau. Et d'ailleurs, il faut savoir que le père était très âgé à ce moment-là. Il avait aux alentours de 80 ans. Donc il faut bien imaginer que, bien évidemment, il ne peut pas aussi facilement que ça se rendre sur le chantier. C'est pour ça que le fils a dû beaucoup l'aider. Donc c'est toutes ces questions qui m'ont intéressée. Et par rapport à la chapelle, j'ai beaucoup aimé travailler donc sur celle-ci, en étudier les éléments, les différents ornements, la toiture en plomb, qui est très intéressante à étudier. J'ai fait pas mal de recherches aussi iconographiques, donc qui portent donc sur des différents supports d'images, donc que ce soit des gravures, des peintures, pour essayer de retrouver comment pouvait être cette chapelle avant la restauration. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'une restauration peut changer la physionomie d'un château. Et donc j'ai vraiment essayé de trouver comment était cette chapelle avant, et j'ai pu bien évidemment trouver que les Rubrich-Robert ont opéré à des modifications esthétiques de la chapelle, notamment pour ce qui est, en fait, quand vous êtes face à la façade de cette chapelle, il y a donc un tympan avec donc un portail, un tympan, un linteau, qui ont été modifiés par les Rubrich-Robert. On trouve sur des images un petit peu plus anciennes que la physionomie, en particulier du tympan, n'était pas la même que celle actuelle. Donc il ne faut pas oublier ces modifications-là, et c'est vraiment là-dessus que j'ai aimé m'atteler, si je peux dire. Et donc pour ce cas de la chapelle, j'ai également souhaité faire des comparaisons. Bien évidemment, c'est quand même un élément qu'on a souvent recours en histoire de l'art, que ce soit picturalement ou architecturalement. Et c'est pour cette raison que j'ai élaboré des comparaisons à propos d'autres châteaux du Val-de-Loire qui ont vécu des restaurations au XIXe siècle. Donc qu'est-ce que j'ai fait comme comparaison avec le château de Blois, comme je vous l'ai un petit peu énoncé tout à l'heure, et également avec le château de Chambord. Je n'approfondirai pas le sujet tout de suite. Mais voilà, j'ai donc fait des comparaisons pour bien évidemment replacer le contexte du château dans son aire géographique, donc la Touraine, mais j'ai également ouvert un petit peu plus le champ des possibles, si on peut dire, puisque j'ai également fait des comparaisons avec d'autres exemples en France, comme la Sainte-Chapelle, donc pour faire une comparaison entre deux chapelles, donc la chapelle Saint-Hubert et la chapelle parisienne, donc de la Sainte-Chapelle. Et j'ai également fait une comparaison, par exemple, avec l'abbatiale du Mont-Saint-Michel pour ce qui est de sa flèche. Donc en fait, à ce propos, j'ai vraiment fait une comparaison sur des éléments très très distinct, très précis, donc ici des flèches, puisque les flèches qui sont dressées au sommet de chapelles ou d'églises ou bien de cathédrales sont en général des éléments intéressants à comparer, puisque très fréquemment on les restaure au 19e siècle ou on les recrée totalement au 19e siècle, c'est ce qu'a fait Viollet-le-Duc à Notre-Dame, n'oublions pas. Et j'ai donc fait une comparaison uniquement topographique sur ces flèches-là, puisque la chapelle Saint-Hubert a une flèche que vous ne pouvez pas voir actuellement, puisque la chapelle est en restauration et que la flèche a été démontée, mais la flèche va être de nouveau présente, puisqu'elle va de nouveau vivre une restauration, comme c'était le cas, sous les rubriches Robert. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment aimé travailler sur cet élément de la chapelle, puisqu'en fait c'est vraiment un élément, on va dire, d'entrecroisement de restauration, en fait. Puisque ça croise la restauration donc de Rubrich Robert, elle a été restaurée à ce moment-là, au 19e siècle, au moment qui m'intéresse pour mon mémoire, et aujourd'hui elle est en restauration, donc c'est assez intéressant de voir cet entremêlement de restauration et de diverses temporalités, en fait. Puisque on parle ici d'un contexte du 19e siècle et aujourd'hui d'un contexte actuel. Des éléments sont à comparer, des éléments sont d'ailleurs en commun entre la restauration du 19e et aujourd'hui. Bien évidemment, il y a des avancées aujourd'hui non négligeables, mais il y a quand même sur certains éléments des ressemblances. Comme par exemple le fait que la chapelle Saint-Hubert est quand même un endroit assez particulier puisqu'elle est à flanc de l'éperon rocheux sur lequel se trouve le château d'Amboise. Elle est vraiment à une hauteur très particulière, ce qui rend le chantier pas très facile, on va dire, à appréhender, puisqu'on peut pas aussi bien circuler autour de la chapelle aussi facilement avec beaucoup de... avec des grues, etc. On peut que d'un côté, en fait, finalement. De l'autre côté, c'est le vide, c'est la ville. Je sais pas si vous voyez précisément, mais c'est vraiment un endroit très particulier pour travailler. C'était déjà quand même un petit peu complexe au 19e siècle, et ça l'est quand même toujours un petit peu aujourd'hui, même si, bien évidemment, encore une fois, nous avons des avancées. Je sais pas si vous voyez précisément à quoi ressemble l'échafaudage aujourd'hui, mais c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Bien évidemment, au 19e siècle, on avait des échafaudages, mais pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc c'est toutes des choses qui sont à comparer et très intéressantes, je trouve, à appréhender. Donc maintenant que je vous ai présenté un petit peu la feuille de route, le déroulé que j'ai suivi lors de la rédaction de ce mémoire, j'aimerais un petit peu tout simplement vous expliquer qu'est-ce que j'aimerais transmettre avec ce mémoire et qu'est-ce que j'aimerais que vous reteniez. Bien évidemment, je vais pas vous expliquer tout ce que j'ai pu écrire, parce que mon mémoire faisait quand même une centaine de pages et ça serait beaucoup trop long d'expliquer tout ce que j'ai pu trouver. Donc dans ce travail, ma problématique était donc la suivante. D'un château Renaissance à un château que l'on veut rendre Renaissance, en quoi Victor Rubrich Robert et Gabriel Rubrich Robert participent-ils à la restauration du château d'Amboise? Comment vont-ils redonner une image Renaissance à ce château ayant vécu les affres du temps? J'ai alors voulu montrer, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait les Rubrich Robert sur ce château, Ça peut paraître une problématique assez simple, mais tout simplement, j'ai élaboré cette problématique puisque c'est un sujet qui n'avait pas été abordé, tout simplement. Et j'ai questionné un petit peu le style qu'ils apportent à ce château, puisque une restauration n'est jamais totalement à l'identique, et d'ailleurs, ça n'a pas été stipulé dans les archives de faire une restauration exactement à l'identique. Donc, ils ont quand même apporté quelque chose stylistiquement à ce château, et j'ai pu voir, en tout cas pour mon cas, que le père élaborait plutôt un style gothique, donc pour l'extérieur du château, et le fils a cherché un petit peu plus à donner une image renaissance pour ce château. Un château qui se trouve au croisement de ces deux styles dès le début finalement, puisqu'il a été construit pendant la Renaissance, la première Renaissance en France, donc il a un style initialement Renaissance, mais le gothique s'est aussi très rapidement greffé sur ce château, notamment avec la chapelle. La chapelle est dans un style gothique par excellence, elle n'est pas d'un style Renaissance, donc il y a vraiment un croisement entre ces deux styles qui est visible avant les Robrecht Robert, mais qu'il est peut-être même encore plus après la Restauration. Tout simplement, ce qui m'intéresse le plus avec ce sujet, et c'est ce à quoi j'aimerais peut-être vous sensibiliser un petit peu aujourd'hui, c'est l'image en fait qu'on a d'un château. C'est cette image-là que j'ai voulu questionner, puisqu'en fait, quand vous êtes face à un château, qu'est-ce que vous regardez? Est-ce que vous regardez un château Renaissance? Est-ce que vous regardez un château gothique? Ou alors un château restauré? Souvent, on regarde un château restauré et en fait, on l'ignore un petit peu ou on n'a pas forcément envie de penser à ça. Alors qu'en fait, c'est ce moment-là qui est décisif pour l'image qu'on a aujourd'hui du château. J'ai cherché des images avant restauration de Robrecht Robert. Il y a quand même des modifications qui sont assez visibles. Et donc, l'image que vous avez aujourd'hui du château d'Amboise, elle a été façonnée par ces deux architectes des monuments historiques. S'ils n'étaient pas intervenus, on n'aurait pas la même image aujourd'hui du château. Et c'est vraiment ce à quoi j'aimerais vous sensibiliser. Et la restauration, j'en parle dans mon sujet de mémoire, c'est pas, on va dire, quelque chose pour moi, en tout cas, qu'il faut cacher. Ça vaut pour tous les domaines. Hein. Ça vaut aussi pour la peinture, picturalement pour des tableaux. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant, puisque c'est quand même, ça fait partie de l'histoire du château, une restauration, qu'on le veuille ou non, ça en fait partie. Et c'est un moment aussi où on a réfléchi sur des techniques, sur un style, sur comment restaurer. On a étudié le château, les Robrecht Robert ont dû étudier historiquement le château pour parvenir à un projet de restauration. C'est un moment d'étude, c'est un moment de réflexion, aussi de nouvelles techniques, de nouveaux matériaux employés. À Amboise, il y a le ciment qui a commencé à être employé sur ce château au XIXe siècle parce que c'était un matériau qu'on utilisait de plus en plus avec le béton notamment, le béton armé a été employé. Alors aujourd'hui on sait que c'est pas forcément un bon point, mais pour l'époque on pensait certainement qu'on allait améliorer peut-être la stabilité du château. Et donc c'est pour toutes ces raisons que je trouve qu'il faut parler des restaurations et ne pas les cacher, puisque d'une certaine manière c'est peut-être un petit peu, je trouve, occulter en fait une partie du passé que de ne pas dire qu'il y a eu une restauration. Parce qu'en fait, quand vous regardez la chapelle Saint-Hubert, par exemple, qu'est-ce que vous regardez? Non, vous ne regardez pas une chapelle qui date typiquement de l'époque gothique. Non, en fait, vous regardez une chapelle qui est le résultat de plusieurs restaurations, de celle de Robrecht Robert et également maintenant de celle qui se déroule aujourd'hui. Et c'est très bien ce qui se passe aujourd'hui au château d'Amboise, puisqu'on monte cette restauration. Je ne sais pas si vous y êtes allé, mais il y a également des petites loges autour où on voit le travail des artisans, des maîtres d'art sur cette chapelle. Donc le château d'Amboise a vraiment fait en sorte que cette chapelle ne reste pas, on va dire, dans son coin, en restauration, et que surtout personne ne s'y intéresse. Non, 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 le chantier a quand même été assez ouvert, je trouve, au public. Le public a dû être assez sensibilisé à ça, je pense. Et donc je trouve que c'est très bien de le montrer comme ça. Aujourd'hui, on le montre, on le dit, on restaure cette chapelle, et c'est très très bien. Mais ma question, c'est est-ce que dans 100 ans, on le dira véritablement que cette chapelle a été restaurée? Puisque aujourd'hui, quand vous allez au château d'Amboise, vous savez pas qu'il a été restauré au XIXe siècle. Il y a quelques petits cartels, mais il faut être très attentif, qui parlent un petit peu de ça. Mais quand vous allez visiter ce château, mais également d'autres, on vous donne, on va dire, une image qu'on souhaite que vous regardez, c'est l'image Renaissance. avec François Ier, Charles VIII à la limite. Mais c'est cette image-là qu'on a souhaité vous transmettre. C'est un choix, il faut faire un choix en termes de médiation culturelle, c'est évident bien évidemment. Et moi ce que j'aimerais vraiment vous dire, c'est que à chaque fois que vous visitez un édifice, on vous donne une image à regarder, mais que c'est pas la seule image, c'est pas la seule et unique manière de regarder un édifice, puisqu'un édifice a vécu tout un tas de modifications durant tout le temps qu'il est là. Il a vécu plein de changements, il en vivra d'autres. L'image d'un château n'est pas fixe, en fait. Elle est très changeante en fonction des temporalités, en fonction du contexte historique, en fonction de nous, ce qui se passe pour nous aujourd'hui. Dans 100 ans, peut-être qu'on présentera par exemple le château de Chambord d'une autre manière. C'est toute une question d'image et de réflexion sur la restauration, sur le temps qui passe, sur le temps qui fait son œuvre sur les édifices. C'est toutes ces questions-là, en fait, qui m'ont le plus intéressée. C'est vraiment ça qui m'intéressait, et de vraiment réfléchir sur qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui, quel est le résultat du château d'Amboise aujourd'hui face à moi, que je dois étudier en fonction de ce 19e siècle qui est si peu étudié dans le Val-de-Loire en tout cas. Le seul qui a vraiment été étudié, c'est le château de Blois par la restauration avec Félix Duban. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant à regarder, puisqu'en fait, on a étudié ce château pour sa restauration, puisque bah, on a déjà trouvé pas mal d'éléments en archives, mais aussi parce que Félix Duban était un architecte des monuments historiques qui est aujourd'hui assez connu, qui a travaillé beaucoup à Paris, et donc c'est pour cette raison aussi qu'on a peut-être souhaité travailler sur ce château de Blois. Mais pour Amboise, vu que les rubriches Robert ont été assez effacées, ils n'ont pas été étudiés en fait. Et c'est assez fou de voir qu'il y a tous des pans de l'histoire de bâtiments qui sont un petit peu mis de côté, qui sont un petit peu omis, qu'on ne connaît pas. Donc moi j'ai voulu un petit peu m'attarder sur ce siècle-là. Il y aurait bien évidemment d'autres choses à approfondir, il y a des questions que j'ai pas trouvé forcément de réponse, mais il y aurait certainement d'autres pans de l'histoire du château d'Amboise à étudier. Et je pense qu'il y a aussi d'autres choses à approfondir, notamment la restauration du fils, qu'il me manque pas mal d'informations. Malgré mes nombreux allers-retours en archives, il y a encore des éléments que je n'ai pas pu trouver, parce que ce que j'aimerais vous dire un petit peu pour conclure par rapport à ce sujet de mémoire, c'est qu'il y a des étudiants qui ont beaucoup d'archives et qui ne savent pas trop où donner de la tête, ne savent pas trop comment trier, ce qui ne doit pas toujours être simple. Pour moi, ça n'a pas du tout été mon cas, puisque j'avais très 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 peu d'archives, ce qui a été assez handicapant. Je pense que c'est le plus gros problème de mon mémoire, ce qui m'a le plus embêté. C'est que j'avais très peu d'archives, donc pour ceux qui se demanderaient, j'avais des archives en termes de plans, hein, j'avais beaucoup de plans, j'en avais pas mal de plans. J'avais quelques traces écrites, quelques échanges entre l'architecte et le comte de Paris, qui à l'époque de la restauration, du moins du début de la restauration, c'était le comte de Paris qui était propriétaire du château d'Amboise. J'en profite pour vous dire que c'est un château privé, encore aujourd'hui, le château d'Amboise, et que ça l'était lors de la restauration. Et j'ai donc trouvé quelques lettres voilà, d'échange entre ces deux protagonistes-là, mais très peu. Ce qui fait que sans lettres, sans preuves vraiment écrites de la main de l'architecte qu'il a voulu faire tel changement sur le château, pourquoi, pour quelle raison, ça je n'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé d'explication pure sur, par exemple, pourquoi telle sculpture a été changée sur, je ne sais pas, par exemple la chapelle Saint-Hubert. Je vous dis un exemple comme ça. Donc ça, non, je n'ai pas trouvé, ce qui fait que j'ai dû beaucoup interpréter. C'est pour ça que j'ai cherché des peintures, par exemple, avant la restauration du château. Donc j'ai vraiment dû essayer de gratter, hein, littéralement, j'ai envie de dire, pour trouver le maximum d'informations, mais ça a été très difficile. J'ai vraiment fouiné, hein, c'est le cas de le dire, mais des fois sans trouver de réponse, ce qui peut être un petit peu démotivant. Il y avait des moments un petit peu démotivants, mais globalement, ça, je n'ai pas eu de gros problèmes pour élaborer ce mémoire, à part celui-ci, donc le manque d'archives. Mais ça a été aussi difficile de lire des plans d'architecte, puisque je ne suis pas d'architecte de métier, je n'ai pas de formation d'architecte, j'ai une formation d'histoire de l'art et pas d'architecte. Donc il y avait des plans que je pense, je n'ai pas compris tous les éléments des plans, puisque c'est quand même un lexique particulier, que je ne maîtrise pas malheureusement, pas encore du moins. Donc c'est, on va dire, la grosse problématique de mon mémoire. Pour le reste, je pense m'être assez bien organisée dans l'année pour que je n'ai pas eu, on va dire, de gros coups de pression, de moments où je me suis mise à rédiger 2 jours avant. Non, ça m'est pas arrivé. Mais voilà, ça dépend de chacun. Hein. Mais je pense que je m'étais quand même très bien organisée et que j'avais quand même assez de temps pour le faire parce que je n'avais pas beaucoup de cours à côté. Donc voilà, si jamais vous devez faire un mémoire à Paris 1 dans un master d'histoire de l'art, normalement vous n'allez pas avoir beaucoup d'heures de cours. Ce qui fait que c'est quand même assez faisable, je trouve, d'élaborer un mémoire à côté des cours. Donc je crois que je vous ai un petit peu fait le tour brièvement de mon sujet. Maintenant, si j'avais quand même peut-être un conseil à donner si vous devez effectuer un mémoire de recherche, peut-être dans n'importe quel sujet qui soit, mais bon, je ne sais pas, je parle surtout pour des domaines d'histoire de l'art, d'architecture et d'histoire. Je dirais de vraiment être très très attentif à ce que vous trouvez en archive et de bien noter le numéro des cartons, puisque en archive il y a des numéros précis de cartons. Je dirais de bien les noter, de bien noter les dates s'il y en a, également de vos plans. Par exemple, plan, lettres, etc. De bien tout, tout, tout noter, de bien le garder pour les annexes, la bibliographie. Enfin, surtout pour les annexes d'archives où il faut que vous écrivez tout ce que vous avez consulté en archives. Donc, il faut avoir les références précises. Et donc, ça, c'est quelque chose que je n'avais pas pensé lors de mes premières recherches aux archives. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important à retenir. Pour le reste, bien évidemment, ça dépend de chacun, mais je dirais d'être assez discipliné quand même pour faire un mémoire de recherche. Et ça, ces points négatifs que vous connaissez certainement, voilà, que des fois vous êtes un petit peu seul en fait dans vos recherches. Par si vous avez la chance ou pas de travailler avec quelqu'un d'autre qui travaille sur le même objet d'étude, mais c'est quand même peu commun et ça peut être déstabilisant, donc je sais pas si c'est une bonne chose. Mais voilà, vous pouvez être relativement seul. Pour mon cas, ce qui a été très intéressant, c'est le fait qu'il y avait une restauration actuellement, ce qui fait que j'ai pu me rendre au château d'Amboise dans le cadre de la restauration de la chapelle, me rendre sur le chantier de la chapelle, de voir la restauration en cours, d'observer la chapelle sans sa charpente, parce que j'y suis allée en décembre dernier, et la chapelle était totalement démunie de charpente, de toit, etc. Donc c'était très particulier de voir un édifice dans ce contexte-là, et c'est très intéressant parce que voilà, je suis passionnée d'architecture, de châteaux, d'édifices. Donc c'est toujours très intéressant pour moi de me rendre sur des chantiers de restauration, hein, c'est ce que je préfère. Donc c'était parfait pour ça, et ça m'a donc mis dans un contexte de restauration, et bien évidemment j'ai rencontré les différents acteurs qui travaille sur cette restauration. Donc c'est quelque chose qui a été très intéressant, qui m'a mis directement sur le terrain et qui fait que j'ai pas été uniquement dans mon coin avec mes archives, si je peux dire. Donc je crois avoir dit un petit peu les points les plus intéressants, les points les plus importants que j'avais à vous transmettre. Donc c'était un podcast que j'avais quand même assez envie de vous faire, pour que je garde moi personnellement déjà une trace de ce mémoire que j'ai été assez contente d'élaborer, et pour tout simplement également vous transmettre tout simplement un petit peu ce que j'ai pu trouver, même si je ne peux pas approfondir plus que ça, mais je vous ai quand même au moins donné la trame de mon mémoire et l'idée importante. Donc voilà, n'oubliez pas, lors de vos prochaines visites de n'importe quel édifice, hein, d'ailleurs on parle de château, mais ça vaut pour des cathédrales ou des églises, demandez-vous qu'est-ce que vous regardez. Essayez si ça vous intéresse, de rechercher quand est-ce qu'ont été les restaurations successives, puisqu'il y en a eu quand même en général beaucoup sur les édifices. Et donc moi, c'est ça qui m'intéresse principalement. Voilà, de questionner l'image que vous avez de l'édifice face à vous, qu'est-ce qu'il a vécu avant, après tel ou tel événement historique, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui de ce château, pourquoi est-ce qu'on vous dit ça, pourquoi est-ce qu'on vous donne cette image, et d'aller un petit peu plus loin que ça, si ça vous intéresse, et donc de vous questionner véritablement sur qu'est-ce qu'a vécu l'édifice que vous avez face à vous. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Pour ce qui est de mon cas, je recherche toujours un petit peu à savoir quand ont été les restaurations du 19e siècle. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Vous pouvez tout simplement réfléchir sur le château et vous questionner sur l'édifice, qui n'est pas obligatoirement un château comme je viens de le dire. Donc j'espère que ce podcast vous a plu. C'était la première fois que je faisais un podcast un petit peu à une voix, que j'interviewais pas quelqu'un d'autre, mais que je questionnais mon mémoire aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram qui est patrimonart, tout simplement, avec tiré du bas à la fin. Et n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à mettre un avis, des étoiles sur Apple Podcast. Et j'espère qu'on se retrouvera prochainement pour parler d'un autre sujet qui ne sera certainement pas un mémoire, enfin, pas le mien en tout cas. Donc je vous souhaite plein de belles visites et de questionnements autour des édifices que vous avez face à vous. J'espère que ça vous a plu, à bientôt.